Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. J-3 et dernière ligne droite pour Donald Trump et Joe Biden dans leur course à la Maison Blanche. Le président américain a mis à profit les derniers jours de campagne pour assurer au Parti républicain une confortable assise à la Cour suprême en faisant confirmer par le Sénat en un temps record la juge conservatrice Amy Coney Barrett pour succéder à la progressiste Ruth Bader Ginsburg. Disparue en septembre dernier, la majorité conservatrice de la Cour suprême des États-Unis est ainsi passée à 6 juges contre 3. Un record pour cette juridiction qui joue un rôle essentiel dans la vie des citoyens américains, mais une stratégie risquée au regard de l'évolution démocratique des États-Unis et de l'extrême polarisation du pays. Regard avec nos invités sur cette décision et plus généralement sur la campagne qui s'achève avec Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Mélandry, historien et professeur des universités. Bonjour.
Bonjour.
Donald Trump n'a pas eu les mêmes scrupules que Barack Obama il y a 4 ans, qui avait préféré attendre l'élection présidentielle pour laisser la future administration choisir un juge en phase avec l'humeur électorale du pays. Que vous inspire à l'un et à l'autre cette précipitation de Donald Trump, Philippe Golub?
Il s'agit en fait d'un passage en force, d'une très grande brutalité au regard des traditions et des coutumes démocratiques récentes du pays. Un passage en force qui montre bien le degré de violence de la politique américaine aujourd'hui. D'ailleurs, je dirais, suivant le philosophe Michel Foucault en cela, que ça met en lumière que la politique est devenue aux États-Unis et a été en fait depuis très longtemps la guerre par d'autres moyens. Les républicains craignant une défaite probable, la défaite probable, pas certaine mais probable de Donald Trump dans les élections de la semaine prochaine, ont fait en sorte d'asseoir une majorité dans une des institutions clés de la République américaine, ce qui pose un problème à la fois constitutionnel et un problème politique aux États-Unis très grave, puisque c'est une forme de discrédit qui s'abat sur la Cour suprême des États-Unis en le politisant, en politisant la Cour de façon extrême. Et donc, nous sommes là dans un moment important parce qu'il faudra changer cette institution à l'avenir, faute de quoi elle n'aura plus de crédibilité auprès d'une partie importante, sinon de la majorité de la population américaine.
Alors, je vais vous passer la parole, Pierre Mélandry, mais ce sera peut-être intéressant de se poser quelques instants sur Joe Biden. S'il est élu président des États-Unis, il envisage éventuellement d'élargir le nombre de juges à la Cour suprême. Ils sont aujourd'hui au nombre de 9. Pierre Mélandry, commentaire sur la décision de Donald Trump et éventuellement, pour aller un tout petit peu plus loin, en quoi, d'après vous, cela constitue une stratégie risquée de la part du président américain?
D'abord, la décision de Trump est évidemment à la fois juridiquement possible, il n'y a pas de manœuvre anticonstitutionnelle, et politiquement, évidemment, une provocation, parce que le Sénat est quand même représente une minorité de la population actuellement dans sa majorité. Je veux dire que les républicains majoritaires en voix au Sénat sont en fait minoritaires en voix dans les élections au Sénat. Et le président lui-même a été élu avec une minorité de voix populaire. Alors, en temps normal, après tout, le système aurait pu fonctionner sans que personne n'ait rien à redire. Là, ce qui se passe, c'est qu'au fond, dans les mêmes circonstances, il y a 4 ans, Monsieur McConnell avait fait obstruction à toute nomination par Obama d'un juge qui, lui, en plus, semblait être tout à fait dans la ligne centriste et modérée et n'était pas particulièrement politisé. Et là, évidemment, on a une situation inverse, puisque la juge qui a été nommée, Amy Coney Barrett, qui est certainement une femme très respectable et une excellente juriste, est très marquée à droite. Et effectivement, on a l'impression que la Cour suprême risque d'être un bastion ultra-conservateur au moment même où on peut avoir l'impression que le pays va à sens inverse. Et alors, je reviens sur la notion de crédibilité, que je dirais même, on peut pousser jusqu'à celle de légitimité.
Absolument.
La Cour, comme le faisait remarquer je ne sais plus quel observateur, n'a pas de troupes à sa disposition. Sa véritable force, c'est sa légitimité, le fait que le pays reconnaît sa capacité à juger de façon impartiale. Alors, Maintenant, on verra bien comment les juges se comporteront. Il y a eu des renversements. Rappelons-nous, lorsque Earl Warren avait été nommé à la Cour suprême, c'était l'homme quand même de l'internement des Japonais durant la Deuxième Guerre mondiale, qui est devenu l'homme qui a arraché à l'unanimité l'arrêt sur la déségrégation scolaire. Brown versus Topeka Board of Education. Donc, on verra bien, mais il n'empêche que la brutalité, effectivement, avec laquelle les républicains ont cherché à s'assurer une très large majorité dans une cour qui joue un rôle essentiel dans toutes sortes de dossiers.
Dans la vie quotidienne des Américains.
On parle déjà, de la santé. Après tout, l'Obamacare est l'objet d'une poursuite en suspens sur laquelle la nouvelle juge pourrait avoir à se prononcer, mais on sait que toutes sortes d'affaires essentielles, le droit des homosexuels, l'avortement...
Les droits reproductifs des femmes.
Oui, la question de l'avortement qui revient sur le devant de la scène après avoir été assez largement éclipsé durant la campagne, les questions d'immigration, les questions d'affirmative action, etc. Et aussi, comme certains observateurs l'ont fait remarquer, des questions de droits de l'entreprise. Enfin, on se rappelle le rôle de la Cour suprême début 20e, l'affaire Lochner. On se rappelle surtout les luttes entre Roosevelt et la Cour suprême durant le New Deal. On sait, ceci dit, que si Roosevelt a perdu la bataille, c'est-à-dire qu'il a dû renoncer à son projet de gonflement de la Cour, comme au fond le monarque britannique peut gonfler la Chambre des Lords, on sait que finalement, précisément parce qu'ils avaient le sens de la préservation de leur légitimité, les juges de la Cour suprême avaient à ce moment-là infléchi leur position. Juste un mot sur est-ce que Biden va procéder à ce qu'on appelle le bourrage de la Cour ou pas. Il a jusqu'ici habilement refusé de se prononcer pour ne pas hérisser un certain nombre d'électeurs modérés, mais il a aussi dit qu'il créerait une commission qui étudierait le problème du judiciaire.
Et la Cour suprême, Philippe Golub, je me tourne vers vous, qui peut aussi intervenir dans le cadre du scrutin du 3 novembre prochain.
Évidemment, cette nouvelle Cour suprême.
Voilà, avec en cas de résultat, d'abord parce qu'il y a la question du vote par correspondance, avec cette interrogation, est-ce que les votes pourront être reçus au-delà du 3 novembre, ce qui est à la charge de la décision de chacun des États. Mais tout de même, si la question doit être tranchée, c'est à la Cour suprême que cela reviendra, d'où l'importance de ce geste de Donald Trump. Et j'en viens aussi, parce que finalement on n'a pas eu le temps d'y répondre avec Pierre Mélandry, est-ce que c'est une stratégie risquée de la part des Républicains aujourd'hui ?
Risqué, c'est risqué dans le sens que elle aggrave, elle approfondit la fracture idéologique et politique et maintenant judiciaire de la société américaine. Elle est seulement risquée pour eux dans le sens qu'ils vont devoir faire face à un parti démocrate et une base démocrate de plus en plus mobilisée. C'est-à-dire, effectivement, ce que Pierre disait sur la disjonction entre, d'un côté, le caractère ultra-conservateur, c'est pas du conservatisme, c'est de l'ultra-conservatisme de la Cour suprême aujourd'hui, dans sa composition actuelle, après la nomination de Barrett, et la société américaine, dont la majorité est importante, c'est-à-dire à peu près 58%, d'après ce qu'on peut savoir, et pour une évolution assez profonde des politiques économiques sociale du pays, et sur les questions de santé, les questions annexes des droits reproductifs des femmes. On est donc là dans une situation où ils essaient de bloquer le système institutionnel en leur faveur pour longtemps. Puisqu'il y a, c'est tout à fait extraordinaire, c'est une institution non démocratique en réalité, la Cour suprême. Les juges sont nommés à vie, ce qui est une curiosité dans le système constitutionnel américain, qui fait partie d'autres caractéristiques non démocratiques du système constitutionnel américain. Le Sénat lui-même, puisque le Sénat donne 2 sénateurs pour chaque État, hors des États très peu peuplés, donc ont le même poids que des États très peuplés tels que New York ou la Californie dans la détermination de la politique intérieure et extérieure américaine, donc, et le collège électoral lui-même. Donc, il y a plusieurs caractéristiques non démocratiques des institutions américaines définies par la Constitution, avec une Cour suprême qui a pour rôle, justement, de juger des questions de constitutionnalité et de la structuration des institutions. Sur les élections, évidemment, si jamais on se retrouve dans un scénario de type 2004, avec Al Gore contre Bush, la Cour suprême, ce serait à quelque dans un État ou deux États, comme la Floride par exemple, où les résultats seraient ambigus, la Cour suprême effectivement sera l'arbitre final de cette décision. Et donc on est là dans un domaine de lutte politique à travers des mécanismes institutionnels. C'est une lutte politique féroce.
Vous écoutez RFI, Marie-France Attin.
Lutte politique féroce. Pierre Mélandry, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou on aborde la question.
Vous demandez si c'était risqué. Je dis que c'est un pari. Parce que d'un côté, Trump a voulu mobiliser notamment sa droite évangélique sur des questions comme, il faut bien le dire, l'avortement. Enfin, c'est tout à fait essentiel. Mais en même temps, il risque de mobiliser contre lui beaucoup plus encore de femmes. Le vote féminin est annoncé de manière écrasante contre Trump et cette politique de nomination ne pourra déboucher que sur une mobilisation encore plus grande des électrices contre le président. Donc là, il y a un arbitrage qu'il faudra voir le jour du vote, mais c'est peut-être une bonne idée pour Trump, mais c'est peut-être aussi une idée qui se retournera contre lui. Sur l'élection de 2000, effectivement, dans l'affaire Gore, il a été étonnant. Le problème, c'est qu'il a été étonnant de voir des juges qui, traditionnellement, parce qu'ils étaient conservateurs, donnaient la priorité au droit des États sur le droit fédéral, qui ont imposé une décision fédérale à un État, la Floride, simplement parce que ça servait le parti qui les avait poussés dans leur position, le parti républicain. Et enfin, pour ce qui est effectivement de ce qu'évoquait Philippe, et qui est très juste, c'est-à-dire la dimension, je dirais pas anti, mais adémocratique d'un certain nombre d'institutions, le Sénat en particulier, je crois que maintenant, longtemps, ça n'a pas posé de problème, parce qu'en gros, il n'y avait pas une opposition fondamentale entre États ruraux et États à forte population et métropole. Mais aujourd'hui, la principale opposition politique passe entre les grandes métropoles d'un côté et les États ruraux de l'autre. Et de ce point de vue-là, l'avantage que représenté par les deux voix au Sénat pour des États faiblement peuplés favorise les États ruraux et donc indirectement
qui sont majoritairement très conservateurs.
Ils sont majoritairement très conservateurs et républicains. Là, il y a eu quelque chose qui s'est produit au long de l'histoire, qui fait qu'un système qui était accepté jusqu'ici sans trop de contestation, maintenant est perçu comme posant problème à une partie des politiques américaines.
Alors l'élection, c'est mardi prochain, 3 novembre. Il est vrai que la campagne qui s'est déroulée s'est déroulée de manière particulière avec le coronavirus, des meetings, absence de meetings, etc. En tout cas, Philippe Golub, ce scrutin s'annonce comme un référendum sur le président sortant. C'est toujours un peu le cas, mais il suscite cette fois-ci une participation massive. On a vu le vote par correspondance être autorisé, le vote par anticipation, c'est pas une nouveauté. Bref, c'est une Amérique aujourd'hui très polarisée, mais avec des camps qui sont particulièrement déterminé. Et finalement, il n'y a pas, pour l'électeur américain, d'hésitation. C'est peut-être en cela une campagne et une élection un peu particulière.
D'après les instituts de sondage et d'opinion, effectivement, la proportion de la population non qui n'a pas encore déterminé son choix est faible. Et plus faible que dans des élections présidentielles précédentes. Et cela s'explique par la très forte polarisation, et je répéterai le mot que j'ai utilisé au début, la fracture de la société américaine en deux camps, pour aller très vite. Mais une fracture qui ne va pas s'évanouir après les élections. La campagne a été une campagne caractérisée par l'absence de présence de Joe Biden, du candidat démocrate, ce qui, dans un certain sens, lui a servi, puisque il a laissé Trump se défaire lui-même, en quelque sorte, en supposant que Trump soit défait. Mais je pense que les sondages sont assez cohérent aujourd'hui pour suggérer que Trump sera défait lors de l'élection. Trump a fait campagne de façon très incohérente, puis il est tombé malade, n'est-ce pas, lui-même.
Ça a été assez rapide. Enfin, il s'est absenté de la Maison-Blanche une semaine.
Voilà, c'est ça. Il a mis en danger son entourage en plus en le faisant comme ça, en sortant de l'hôpital comme il l'a fait. Et donc, c'était le fait que Biden n'ait pas été très présent a servi indirectement Biden en laissant Trump faire ce qu'il faisait dans l'arène publique américaine. Mais ça ne veut pas dire que Biden a un très grand avantage, cependant, parce qu'on ne sait pas exactement quelle a été réellement sa capacité de mobilisation. Je pense que, du côté démocrate, la mobilisation à la base est beaucoup plus forte que celle en haut, le parti institutionnel démocrate. Et le parti institutionnel n'est pour l'instant pas aussi présent dans la lutte politique que la base. Et donc on est dans une situation curieuse où si Biden gagne l'élection, ce qui est probable n'est pas certain, il va y avoir au sein même de l'électorat démocrate des divisions qui vont s'opérer. N'est-ce pas? Et cela dépendra des politiques mises en œuvre par Biden au cours des premières années de sa présidence. Et je pense que là, il y a un très grand enjeu, c'est-à-dire la capacité qu'aura Joe Biden dans les deux premières années de sa présidence, c'est un homme vieillissant après tout, n'est-ce pas? Dans les deux premières années de sa présidence, à essayer de se conformer au véritable désir de transformation économique, sociale et politique que la base du Parti démocrate exprime aujourd'hui et depuis des années. Et on l'a vu, évidemment, dans la mobilisation, surtout de l'électorat de Bernie Sanders, mais aussi au sein, plus largement, des couches qui votent pour le Parti démocrate aujourd'hui. C'est un des grands enjeux de la présidence à venir.
On reviendra, bien sûr, sur les questions économiques, mais Pierre Merlandry, vous partagez d'abord l'idée que Biden ne fait pas l'unanimité au sein du Parti démocrate. On l'a vu pendant les primaires, et tout ça s'est exprimé quand le choix ne s'était pas encore définitivement porté sur le candidat Biden, mais avec Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Ça, c'est une première question. Et victoire possible de Biden, tout de même, à ce jour, d'après vous, Trump a-t-il encore une voix pour obtenir un second mandat?
Alors, je crois qu'effectivement, s'il y a unité du Parti démocrate, c'est contre Trump.
Oui.
C'est vraiment le ciment. D'ailleurs, Fintan O'Toole a fait remarquer dans la New York Review of Books, le ticket démocrate devrait s'intituler Trump, Biden, Harris dans cet ordre, parce que la grande rhétorique consiste à dénoncer Biden, et il faut dire ce qui est. Alors, dénoncer la politique de Trump, il avait parlé de carnage américain à son arrivée, mais la situation actuelle, avec les morts du coronavirus, avec l'état de l'économie, effectivement, montre une Amérique qui, comment dirais-je, s'interroge sur son avenir. Moi, j'ai été très frappé par le fait que, déjà, c'était en 2016, Nicolas Christophe faisait remarquer que certains travailleurs sociaux américains qui se penchaient jusqu'ici sur les pays du tiers-monde se demandaient s'ils ne devraient pas venir plutôt travailler en Amérique. On a vu, j'ai trouvé ça extraordinaire, l'article de Peter Beinart qui a inviter l'OSCE à venir surveiller les élections américaines en disant qu'il y avait déjà noté en 2018 toutes sortes de violations du droit de vote. Et on sait que l'International Crisis Group, Robert Malley, a dit récemment qu'on pouvait s'attendre à de très grands troubles au lendemain de l'élection. Ça, c'est pour répondre à la première question. Il y a unité du Parti démocrate, mais effectivement, Alexandra Ocasio-Cortez a investi Sanders lors de la convention démocrate. Il y a de très profondes divisions sur le programme, ou plutôt sur la profondeur du programme, parce que Biden a fait énormément de gestes dans le sens de sa gauche, mais toujours à mi-chemin, parce que il ne veut pas aliéner les électeurs modérés qui pourraient sinon aller voter Trump, du moins s'abstenir, car toute la campagne de Trump, il ne faut pas l'oublier, consiste à dire que Biden est un cheval de Troie des socialistes, à expliquer que l'on va véritablement vers un cataclysme si Biden est élu. D'où, évidemment, la prudence de Biden. Ceci dit, j'ai l'impression quand même que les groupes de gauche se disent qu'à un moment, Biden, si les choses se présentent bien, c'est-à-dire si le Sénat est démocrate, si la Cour suprême ne fait pas une obstruction systématique, si l'état de l'économie est tel que les gens se disent que des mesures d'exception sont nécessaires, Biden pourrait après tout se révéler un président beaucoup plus transformationnel et beaucoup moins transitionnel qu'on ne l'a imaginé.
C'est vrai, à condition que, effectivement, si le Sénat bascule et la Chambre des représentants reste, ce qui est presque certain, dans les mains du Parti démocrate, là, une occasion inespérée sera présente pour le nouveau président de transformer en profondeur le pays. Reste à savoir s'il le fera.
Alors, président transformationnel, je vous propose qu'on poursuive dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve Philippe Golub et Pierre Mélandry après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, J-3 et dernière ligne droite pour Donald Trump et Joe Biden dans leur course à la Maison Blanche. Nous retrouvons Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris, et Pierre Mélandry, historien et professeur des universités. On évoquait à la fin de la première partie de l'émission la possible victoire de Joe Biden dans 3 jours, avec cette interrogation, avec quel parlement, quel congrès Biden va-t-il pouvoir gouverner s'il est élu, bien sûr. Est-ce qu'il y aura une majorité des démocrate au Sénat, et est-ce que la Chambre des représentants conservera cette majorité démocrate? Et je posais la question, Pierre Mélandry, de savoir si Trump avait encore une voix pour obtenir un second mandat. Je pense en particulier peut-être à une surmobilisation de l'électorat républicain.
C'est un peu ce que redoutent les démocrates qui se disent surtout pas, ne renouvelons surtout pas le scénario de 2016. Nous pensions que c'était dans la poche et où finalement Trump nous a surpris. Donc il y a cette crainte qui existe et qu'il ne faut pas négliger. Ned Silver, je crois, donne à peu près 12% de chance à Trump de passer malgré tout, ce qui n'est pas énorme, hein, ça fait 88% pour Biden. Mais effectivement, je crois que vous avez raison de dire qu'une des chances de Trump serait d'un côté une mobilisation très forte de ses troupes qui disent ne pas avoir peur de venir voter en présentiel, et inversement une démobilisation relative de gens qui hésiteraient à venir voter. Mais je crois que cette hypothèse est quand même déjà affaibli quand on voit le nombre de gens qui ont voté. On en est à plus de 70 millions. Plus de la moitié de l'électorat de 2016 a déjà voté. Donc, alors les autres possibilités seraient, mais il reste si peu de jours, une gaffe énorme de Biden qui le ferait s'effondrer. Je crois que c'est fini. Le vrai problème, c'était les débats, et Biden s'en est très bien sorti et a prouvé qu'il était tout à fait capable d'être président. Des violences terribles dans les rues qui permettraient à Trump de rebondir sur la loi et l'ordre. Oui, en ce moment, il y a des problèmes à Philadelphie, mais enfin, on sait que sur la loi et l'ordre, les sondages donnent plutôt Biden comme l'homme le plus à même de régler ce problème. Le véritable risque serait ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ce qu'on appelle un blue shift, c'est-à-dire que le soir de l'élection, quand on décompte les bulletins de la journée,
dans des états clés,
les états pivots, Trump est en avance et en profite pour crier victoire, et ensuite cherche à accréditer l'idée que les votes qui viendraient après sont des votes truqués, que ce sont des votes de bourrage des urnes par correspondance, etc., etc. Et là, évidemment, l'élection, dans un tel cas, qui n'est pas à écarter malgré tout, pourrait être laissée soit aux chambres et aux législatures des États pour décider quelle est la délégation de grands électeurs qui votera au moment où le collège électoral se réunira, soit aller, c'était l'hypothèse que Philippe évoquait tout à l'heure, devant la Cour suprême, comme après tout, c'est déjà arrivé une fois.
Alors, les états-clés, Philippe Golub, on les rappelle, il faut que Trump, s'il veut l'emporter, gagne les états qu'il a conquis en 2016. Ce sont ceux qui comptent le plus de grands électeurs. On les rappelle, la Floride, 29 grands électeurs, la Géorgie, 16 grands électeurs, l'Ohio, 18, ainsi que la Pennsylvanie, 20. Et il faut également qu'il conserve au moins l'Arizona, 11 grands électeurs, ou bien l'Iowa, qui en a 6.
Oui. Deux questions se posent immédiatement du point de vue de ce que font apparaître les instituts d'opinion aux États-Unis, les sondeurs. La Pennsylvanie d'abord, et puis la Floride. Ces deux États-là. Il y en a d'autres qui sont aussi en jeu, mais il semblerait qu'au cours de la dernière semaine, Trump ait gagné quelque peu, mais très marginalement en Pennsylvanie, mais reste toujours très loin derrière Biden dans les intentions de vote. Et là, tout dépendra effectivement de la mobilisation des électeurs et de l'accès des électeurs, en particulier afro-américains, aux urnes, n'est-ce pas? Il semblerait que Pennsylvanie sera du côté démocrate, mais encore une fois, il faut être au conditionnel, parce que nous ne connaissons ni la capacité de mobilisation des électeurs républicains, ni la difficulté qu'auraient les électeurs démocrates à voter dans l'État. Le même problème se pose en Géorgie, qui pourrait basculer côté démocrate. Si jamais la Géorgie bascule du côté démocrate, je pense que c'en est évidemment fini pour Donald Trump, parce que c'était un État qui, traditionnellement, a toujours été, ou très largement été, du côté républicain. Et enfin, la Floride, là, Trump est moins en arrière que dans d'autres États, mais Biden conserve une petite avance en Floride. Et là encore, c'est très, très difficile de le savoir, parce qu'on est dans les marges d'incertitude que donnent les sondages. Il semblerait que du point de vue du collège électoral, d'après les évaluations, par exemple, de Nate Silver du New York Times, que dans les projections seraient d'une victoire relativement large de Biden au collège électoral, si les tendances générales soulignées par les sondages se confirment.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Alors, on l'a dit dans la première partie de l'émission, il y a beaucoup de l'anti-Trump dans le choix de vote des électeurs américains. Il y a un autre aspect aussi, c'est l'aspect économique. Alors, quel impact l'économie a-t-elle réellement dans le scrutin version 2020 de cette élection présidentielle? On peut rappeler que le taux de chômage était de 4,7% en début de mandat de Donald Trump. Il y a donc 4 ans, qu'il est redescendu en février 2020 à 3,5%. C'était un plus bas historique depuis 1968, avant de rebondir à 14,7% en avril pour cause de coronavirus, de pandémie, puis d'amorcer une décrue à 7,9% en septembre. C'est le dernier chiffre que l'on a. Et il y a aussi le facteur croissance, Pierre Mélandry, qui s'établissait en début de mandat de Donald Trump à 1,8%, qui a chuté à 0,3% en janvier 2020, avant de s'effondrer à moins 9,1% en avril.
Oui, alors c'est là quelque chose de surprenant. Trump semble avoir voulu saboter sa campagne. Alors, il y a plusieurs exemples différents. Il y a eu le livre de Woodward qui est sorti expliquant qu'il savait que le coronavirus serait mortel. Enfin, Trump disant ça à Woodward avant de dire au pays qu'il fallait minimiser cette crise, etc. Et il y a eu toutes sortes de choses, ce que aussi Jeffrey Goldberg a révélé sur les militaires. Mais tout ça, c'est marginal par rapport à l'économie, effectivement. Or, on peut se dire que Trump avait un fort atout. Au début de l'année, on pouvait penser qu'il passerait sans trop de problèmes grâce à l'économie. On pouvait discuter la réalité de cette croissance, évoquer les taux très bas, évoquer un déficit abyssal. Il n'empêche que les gens se sentaient bien. Et encore aujourd'hui, on a des Hispaniques qui vont voter pour Trump, en dépit de toutes les insultes qu'il a pu déverser à leur encontre, parce qu'ils se disent que, somme toute, cet homme-là avait relancé l'économie et que leur niveau de vie, à un moment au moins, sous lui, avait augmenté. Alors, on aurait pu s'imaginer qu'il allait s'acharner à faire revoter un plan de relance pour permettre à l'impact de la crise sanitaire d'être fortement atténué en termes économiques. Or, de manière surprenante, peut-être parce que le Sénat républicain, comment dirais-je, renaclé à de nouvelles grandes dépenses, à un accroissement de la dette et du déficit, mais il n'a pas beaucoup insisté. Et actuellement, il y a certainement dans le pays un sentiment, dans une partie de la population, de désespoir, parce que les chômeurs voient la fin de leurs économies, beaucoup de gens redoutent d'être expulsés de leur logement. Bref, de ce point de vue-là, Trump n'a pas fait ce qu'il apparemment, dans son propre intérêt, aurait dû faire. Maintenant, reste la question pour l'avenir. Imaginons que Biden soit élu. Est-ce que le grippage actuel, la fracture, comme dirait Philippe, qui existe entre la Chambre et le Sénat, va faire que aucun plan ne pourra être voté avant l'arrivée de Biden, ce qui, évidemment, mettra le futur président devant une situation économique terriblement difficile. Et là, la question se pose, que fera-t-il? Est-ce qu'il prendra des mesures de relance absolument gigantesques? Ce n'est pas impossible parce qu'au fond, il a été lié très étroitement au plan de relance d'Obama après la crise, elle, financière de 2007-2008. Et quelle a été la leçon? C'est que au fond, on lui a reproché à ce plan d'avoir creusé le déficit et très peu d'avoir fait baisser le chômage. C'est-à-dire que la leçon, c'est que le plan n'a pas été assez massif pour provoquer un changement positif dans l'opinion. On en a fait à la fois trop pour les faucons du déficit et pas assez pour les gens qui attendaient, eh bien, de voir l'emploi revenir. D'où la possibilité de voir Biden si, et c'est un grand si le Congrès est de son côté, s'il n'y a pas l'obstruction qu'on a vue sous Obama du Sénat, de lancer un très grand plan pour véritablement donner au pays l'impression d'une renaissance et je dirais même d'un changement d'idéologie. Au fond, l'élection vers laquelle on va pourrait être aussi bien une élection finalement banale, mais elle pourrait être aussi une élection, et certains observateurs le disent, rappelant 1932, l'arrivée de Roosevelt, ou en sens inverse, 1980, l'arrivée de Reagan. Mais une élection qui marque une grande inflexion idéologique, et on peut se demander quand même s'il ne sera pas le cas. On voit que dans le Missouri, les électeurs par référendum ont imposé au gouverneur l'extension du Medicare prévu par l'Obamacare. Il y a, semble-t-il, dans le pays, une demande d'interventionnisme étatique et il se pourrait que Biden, avec l'aide des activistes qu'évoquait tout à l'heure Golub, finalement décide de transformer profondément le pays et de répondre ainsi à toutes les crises auxquelles il est confronté actuellement, non seulement la crise sanitaire avec un programme énergique de lutte contre le coronavirus, mais la crise économique avec un fort programme de relance. D'ailleurs, il a déjà annoncé 700 milliards pour America, Buy America, 2000 milliards pour la transition écologique, 750 milliards pour améliorer l'accès aux soins des personnes âgées ou des enfants pauvres, enfin, etc. Il est possible que cette élection, si l'emporte le Sénat, marque un changement dans la politique suivie jusqu'ici par les présidents démocrates qui tous, plus ou moins, se sont coulés dans le moule qui s'est dessiné à partir des années 80 avec Reagan. Mmh. Le dernier candidat, au fond, keynésien démocrate, ça a été Mandel. Mmh. Et alors, depuis, c'était des hommes du Democratic Leadership Council, style Clinton. Ça correspondait à une époque où finalement la croissance paraissait toujours au rendez-vous. Il est clair de nos jours que pour l'opinion, peut-être qu'un renversement s'impose.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Alors, Philippe Goblut, commentaire sur tout ce que vient de dire Pierre Mélandry. Donc, vous y croyez, vous, à cette grande inflexion idéologique que pourrait impulser Joe Biden s'il est élu dans trois jours, étant entendu qu'il prend officiellement ses fonctions en janvier prochain. En tout cas, là aussi, sans la pandémie, sans cette crise, Trump avait toutes les chances de l'emporter pour un deuxième mandat.
Alors, les grandes transformations historiques sont toujours engendrées par la conjonction entre, d'un côté, des facteurs structurels plus longs, des situations générales, des situations générales, et évidemment la présence de personnalités capables de s'emparer du moment historique. C'était le cas de Roosevelt dans les années 30. C'était le cas, dans un sens inverse, de Reagan dans les années 80. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? Est-ce que Joe Biden incarne justement la personnalité qui s'insérera dans le moment historique qui est présenté, dans les potentialités qui sont là, qui sont les siennes? C'est-à-dire qu'effectivement, la conjoncture historique actuelle aux États-Unis permettrait le genre de transformation que souligne Pierre Mélandry. Ça, nous ne le savons pas encore. Nous ne savons pas encore si l'homme sera au rendez-vous. Il faudrait l'espérer, évidemment, parce que objectivement, des programmes de type keynésien, parce qu'on serait un retour au keynésianisme au plan économique et social, changerait la donne en profondeur aux États-Unis. Le retour de l'État-providence, pas simplement de l'État, mais de l'État-providence, the welfare state, ou quelque chose qui ressemblerait à un welfare state beaucoup plus élargi que celui qui existe actuellement aux États-Unis reviendrait à moderniser ce qui s'était passé sous Roosevelt dans les années 30. Nous n'y sommes pas encore. Il faudrait effectivement l'hégémonie dans les deux chambres, la domination des deux chambres et la personne, c'est-à-dire le président lui-même. J'ai personnellement pas d'opinion là-dessus puisqu'on ne peut pas savoir à l'avance ce que Biden pourrait faire ou ne pas faire. faire. Le danger serait qu'il fasse des demi-mesures plutôt que ce qui serait nécessaire pour fondamentalement renverser la courbe de la crise économique américaine qui est très profonde, qui touche des pans entiers de l'économie, qui frappe la société très durement. Je dirais un mot sur pourquoi Trump n'a pas initialement poussé les programmes de relance comme il aurait pu le faire. C'est son indifférence absolue, l'indifférence absolue du Parti républicain sur le sort des pauvres, sur le sort des minorités, des pauvres. Parce que au départ de la crise, maintenant c'est plus large, les effets sont plus larges, mais au départ de la crise du Covid, ce sont les communautés afro-américaines, latino-américaines, les pauvres en général, et les petites classes moyennes qui ont été très affectées, pas la base des classes moyennes supérieures et des classes supérieures du Parti républicain représentées au Sénat et à la Maison-Blanche. Donc il y a une indifférence morale absolue vis-à-vis de ces couches de la population. Au sein du Parti démocrate, ce ne sera pas le cas. La question reste de savoir quelle sera l'ampleur du changement politique déterminé par la conjonction entre le moment historique et la personne qui sera au pouvoir.
Alors, ampleur du changement, c'est aussi l'ampleur de la victoire de possible de Biden. Alors, à un moment, on a beaucoup craint que si, et on continue de craindre que si le différentiel entre Biden et Trump soit finalement assez mince, et bien qu'il y ait une explosion de violence aux États-Unis, on a même abordé la crainte d'un retour à la guerre civile. Alors, est-ce que ce sont des grands mots, en tout cas on parlait de polarisation et Philippe Goulub nous a repris en disant que non, il ne s'agit pas de polarisation mais il s'agit vraiment d'une fracture de la société américaine. Alors est-ce que cette fracture peut arriver au point, Pierre Méandré, Philippe Goulub, je mets cela en débat entre vous pour les 3 minutes qui restent avant la fin de cette émission, mais malheureusement le temps tourne trop vite, risque de violence, Pierre Méandré, éventuellement en cas de faible avance pour l'un ou pour l'autre des candidats?
Oui, très brièvement, le souhait de tout le monde est évidemment qu'il y ait une sorte de raz-de-marée. Ça ne peut pas être pour Trump, dans ce cas-là, ce sera pour Biden. À ce moment-là, l'affaire sera close. Et on dit après tout que Trump ne veut pas partir. Je crois dans ce cas-là, il partira, mais c'est un facteur aussi de trouble, parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il se considérera comme fini. On pense déjà à la création d'un grand réseau d'information avec Sean Hannity et consorts, qui ferait une sorte d'obstruction systématique à une présidence Biden et chercherait, un peu qu'au fond comme la Tea Party l'avait fait pour les programmes d'Obama, à casser d'emblée une dynamique Biden. Alors reste le problème, évidemment, si on n'a pas un raz-de-marée et que l'élection est disputée, oui, certains redoutent effectivement que des partisans de part et d'autre, et surtout évidemment dans certains États, comme je crois la Géorgie, où il y a des milices armées, etc., et cherchent à occuper le terrain. Doit-on parler de guerre civile ? Non, je crois que c'est allé un peu loin. Des troubles, oui. Ça, je crois qu'on ne peut pas les éviter. On peut les éviter s'il y a un raz-de-marée, mais on ne peut pas les écarter s'il y a une élection contestée. Après, comment dirais-je, l'idée d'un coup d'État de Trump, je crois que c'est allé trop loin. Il va tout faire pour s'accrocher par le biais de manœuvres plus ou moins contestable, style appel à la Cour suprême éventuellement, en sachant qu'il y dispose d'une grande majorité, etc. Mais sinon, de quels éléments disposerait-il pour un coup d'État? Il n'a pas lui-même, à proprement parler, de troupes. L'armée est quand même assez réticente, surtout après un certain nombre de ses propos. On a vu comment le secrétaire à la Défense et le chef d'État-major des armées ont fait marche arrière après l'histoire de Lafayette Square. Après tout, il a passé sa vie à dénoncer le FBI et la CIA. On voit mal comment un homme qui s'est coupé autant des services secrets pourrait organiser un coup d'État. Et en même temps, la presse, il a Fox News, effectivement, et quelques organes marginaux à côté de Fox News. Mais la grande presse n'est pas pour lui. Donc, non, je pense qu'on peut redouter, c'est des troubles.
Philippe Goulub.
Oui, je suis d'accord avec cette évaluation. Je pense que des troubles sont possibles, d'autant plus que les minorités activistes blancs radicalisés d'extrême droite sont armés et sont violents et qu'ils peuvent passer à l'acte ici ou là dans quelques États américains. Ceci ne constituerait pas un danger au plan systémique, c'est-à-dire au niveau de la société dans son ensemble. Mais des troubles, oui, entretenus par un parti républicain, encore sous la domination de Trump. Trump ou du moins de personnalités qui sont très proches de Donald Trump aujourd'hui.
Merci à chacun pour ce point à trois jours de l'élection présidentielle américaine. Philippe Golub, je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris et Pierre Mélandry, historien et professeur des universités. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Nathalie Laporte et Yaël Co. Demain, nous parlerons d'un autre scrutin moins médiatisé, celui-là, les élections législatives en Birmanie qui se tiendront le 8 novembre prochain.